perkeleen tontot!
Salut à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, votre émission métal qui, comme chaque semaine, va vous faire faire un petit tour de cette actu qui est pas très très grosse en ce moment. On approche de Noël de plus en plus, donc voilà, hein, les grosses sorties vont redémarrer à partir de janvier, mais on a quand même quelques petits trucs sympas. Alors, période de Noël oblige du live, et oui, tous les ans, c'est la période propice pour sortir des albums en public. On aura un petit peu d'acoustique aussi. Et puis d'ici une petite demi-heure, interview, et aujourd'hui on va s'intéresser au duo Yann Armellino et El Bucho, un duo qu'on avait découvert en 2016 avec un premier album qui s'appelait Better Ways, qui fait son retour avec un deuxième album, un album qui est sorti fin novembre et qui s'appelle 17. On aura tout à l'heure Yann Armellino, donc guitar héros, hein, je reparlerai, mais qui sera avec nous donc pour nous en dire un petit peu plus sur ce nouvel album de ce duo qu'il forme avec l'ex-chanteur de Watcha. Voilà. Mais en attendant de retrouver Yann, c'est parti donc pour les nouveautés du jour tout d'abord, et j'en ai deux à vous proposer. La première, c'est un live et c'est le groupe danois Volbeat qui sort aujourd'hui Let's Boogie. Alors c'est un live CD plus DVD, donc voilà, petite cerise sur le gâteau, on a la vidéo et ça peut être assez sympathique de se mater ça. Donc Volbeat, groupe qui nous vient de Copenhague, qui s'est fondé en 2001, il a été créé sous l'impulsion du chanteur-guitariste Michael Poulsen, qui s'était auparavant déjà illustré au sein d'un groupe de death metal qui s'appelait Dominus. Alors avec Volbeat, on change totalement de style, hein, puisque alors il faut savoir que Michael Poulsen, c'est un très grand fan du groupe de punk américain Social Distortion. Social Distortion, c'est un mélange de punk et de country, pour vous la faire courte, mais Poulsen y puise également ses influences chez Metallica, chez Elvis Presley, Johnny Cash, et donc pour ce projet Volbeat, il va choisir de fusionner des sons heavy metal, rock and roll, punk, country, blues et rockabilly. Certains qualifient cette fusion de Elvis metal. Je sais pas si on peut aller jusque là, mais en tout cas c'est un métal qui swing, hein, tout simplement. Alors dès la sortie de son premier album qui s'appelle The Strange, The Sound, The Songs en 2005, le groupe va connaître un succès assez énorme au Danemark, un succès qui va vite se répandre à travers l'Europe et jusqu'aux États-Unis avec les albums Rock the Rebel, Metal the Devil en 2007, avec Guitar Gangster and Cadillac Blood en 2008. Un seul pays européen va sembler hermétique au charme de Volbeat, et encore une fois, il va s'agir de la France. Les Français vont commencer à succomber au talent des Danois qu'à partir de l'album suivant de Beyond Hell Above Heaven en 2010, grâce notamment au passage du combo sur quelques scènes prestigieuses de notre hexagone. Mais les Français vont bien se rattraper puisque le public fera ensuite un triomphe aux albums Outlaws, Gentlemen and Shady Ladies en 2013 et à Seal the Deal and Let's Boogie en 2016. Et depuis, voilà, c'est devenu une pointure en matière de métal international, mais surtout en France où Volbeat connaît un gigantesque succès. Sinon, ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les disques du combo sont des concept albums. Alors, soit on peut y suivre une histoire, soit on a un thème fil rouge, comme par exemple le Far West ou le Vaudou dans les deux derniers albums. Et donc, voilà, ce que je vous disais, aujourd'hui, Volbeat, ils font partie de ces mastodontes de la scène métal actuelle, et par conséquent, eh bien, le groupe se produit sur les plus grandes scènes du monde. Aujourd'hui, on voit ce que ça peut donner en live pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'assister à un concert avec, justement, ce CD-DVD Let's Boogie, qui a été enregistré le 26 août 2017 dans le fief du groupe, donc à Copenhague. C'est dans une salle qui s'appelle le Telia Packen, et qui était ce soir-là sold out. La prestation du groupe sur l'objet en question, elle dure presque 2h20. On y trouve des titres d'à peu près chacun des 6 albums et on a en bonus quelques invités de marque comme Mile Petroza de Creator, on a Mark Greenway de Napalm Death aussi ou encore Monsieur Lars Ulrich de Metallica qui rejoint le groupe le temps de 2 morceaux dont une reprise d'Enter Sandman. Alors, pour conclure, ce qu'on peut en dire de ce Let's Boogie, c'est que c'est un live qui déborde d'énergie, qui témoigne parfaitement de la qualité scénique totalement irréfutable des Danois. Et on comprend tout à fait pourquoi les festivals se les arrachent. Moi, je trouve que c'est un cadeau parfait à poser au pied du sapin pour patienter sagement jusqu'à la sortie du nouvel album studio de Volbeat. Et selon les promesses du guitariste Rob Caggiano, il n'y aura pas longtemps à attendre parce que ça va être en 2019. Et justement, ce live qui est Let's Boogie, il contient un titre inédit de ce futur album. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle The Everlasting. Et ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute tout de suite. Voici Volbeat sur Back FM. Et c'est en live. You wanna hear a new song? Even though you don't know it, you wanna hear a new song? Hear a new song? Okay. Huh? All right, this one is called The Everlasting. c'était Volbeat à l'instant et en live, donc avec un extrait de ce Let's Boogie qui paraît aujourd'hui en CD, en DVD ou Blu-ray, hein, c'est au choix. En tout cas, de quoi patienter jusqu'à la sortie du nouvel album prévu, je le rappelle, pour cette année 2019. Je pense avant cet été, enfin là je m'avance peut-être un petit peu, mais en tout cas, on suivra l'affaire de très près dans cette émission Check Me Load. Ça n'est pas la seule sortie du jour, il y en a une autre avec également le retour de Venom qui sort aujourd'hui l'album Storm the Gates. Donc Venom, combo légendaire fondé en 78 à Newcastle par le chanteur-bassiste Kronos, le guitariste Mantas et le batteur Abaddon. Alors de ce line-up aujourd'hui, il ne reste plus que Kronos, puisque les deux autres membres fondateurs, ils évoluent désormais au sein d'une formation parallèle, on va dire, qui s'appelle Venom Incorporation. C'est donc désormais Rage qui tient la guitare et Dante qui est derrière les fûts. Alors, Venom, c'est un groupe qui naît en pleine vague New World of British Heavy Metal, comme Iron Maiden ou Judas Priest, et qui le revendique d'ailleurs. Mais voilà, au début des années 80, Venom, c'est un groupe qui va tout simplement changer la face du heavy metal moderne en jetant eh bien, les bases du black metal. C'est en effet à Venom et à son mythique deuxième album que l'on doit d'ailleurs ce terme qui définit aujourd'hui la musique black metal. La trilogie que forment les trois premiers albums du combo, donc soit Welcome to Hell paru en 81, Black Metal en 82 et At War with Satan en 84, révèle en effet une musique primaire, instinctive, sauvage, qui conjugue la puissance du métal à une attitude 200% punk, une approche unique et quasi inconcevable à l'époque. Et donc, après avoir mis le feu au plafond à la Hammersmith Odeon de Londres, et ça c'est véridique, lors d'un concert dantesque, eh bien Venom va sortir en 85 Possessed, puis Calm Before the Storm en 87, ça va être deux échecs commerciaux qui vont aboutir au départ de Kronos. Il est donc remplacé par Demolition Man et une nouvelle ère va commencer pour le groupe avec l'album Prime Evil qui sort en 89. Alors cet album il va être salué par la critique mais il va être très très largement boudé par les fans qui sont déçus du nouveau frontman. L'album suivant il reçoit ben, pour ainsi dire le même accueil et Venom ben, va décider d'arrêter les frais, de se séparer en 93. En 95, premier rebondissement, le groupe annonce sa reformation avec son line-up d'origine. Donc la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Ils vont assurer la tête d'affiche du Dynamo Open Air en 96 devant 90 000 personnes. Leur plus gros concert. Et bah, c'est une nouvelle ère hein, qui va s'ouvrir pour le groupe, qui sort en 97 le très attendu Cast in Stone, qui sera alors lui très chaleureusement accueilli et par les médias et par les fans, malgré l'ajout de sonorités qui sont résolument modernes, proches du métal industriel. Pour ce qui est de la suite, la discographie de Venom, on y trouve quelques belles pièces comme Metal Black, ce qui était paru en 2006, ou From the Very Depth en 2015. Et donc l'Infernal Trio qui fête cette année ses 40 ans a pas fini d'en découdre et nous balance un 15e effet studio dans lequel, alors là, faut bien avouer, il y a quand même à boire et à manger. Parmi les principales faiblesses de ce nouvel opus, il y a tout d'abord le son qui est très daté, qui est limite dépassé, je trouve. La production, elle est crade, vieillotte. Du coup, la voix de Kronos, elle est plutôt caverneuse. Les guitares sont criardes, la batterie noyée sous les coups de cymbales qui sont omniprésentes. Heureusement, Storm the Gates offre malgré tout quelques moments accrocheurs qui font qu'on lui accordera quand même la mention passable. Alors vous l'aurez compris, hein, Venom peut mieux faire. On attend ça pour le prochain album. En attendant, on va quand même pas bouder notre plaisir. On va écouter un extrait de cet album Storm the Gates avec le titre Bring Out Your Dead. C'est tout de suite. Bring Out Your Aid. Pardon. C'est tout de suite. C'est sur Back FM. Venom avec Bring Out Your Dead, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, après j'ai corrigé avec Ed, mais non, le titre c'est bien Bring Out Your Dead, en tout cas c'est un extrait de l'album Storm the Gates qui paraît aujourd'hui, vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Metal Check Me Load, et bah, c'est tout hein, pour les sorties de ce 14 décembre, mais j'ai encore quelques petites choses à vous présenter avant de recevoir Yann Armellino pour nous parler donc du nouvel album de son duo avec El Bucho, et puisque la semaine prochaine, vous aurez droit à l'émission traditionnelle spéciale Noël. On va s'intéresser avec un petit peu d'avance à une des rares sorties qui sera prévue pour ce 21 décembre. Et il s'agit du projet de John Schaefer qui s'appelle John Schaefer's Purgatory. Et donc, John Schaefer sort un EP qui s'appelle ben, tout simplement Purgatory qui sera disponible donc dans une semaine. Alors, c'est quoi ce John Schaefer's Purgatory? C'est en fait la résurrection du groupe Purgatory, qui était un projet musical qui avait été initié à Tampa, en Floride, en 85, et ben par le guitariste John Schaefer. Et ce projet, plus tard, il va devenir le groupe Iced Earth, ce fleuron de la scène power trash américaine. Et pour ressusciter sa créature musicale née il y a près de 35 ans, et bien John Schaefer, il a convié quelques amis. Tout d'abord Gene Adams, qui était le chanteur de Purgatory à l'époque, qui était également au chant sur le premier album d'Iced Earth. Il a convié également Bill Owen, qui a été le tout premier guitariste d'Iced Earth, donc aux côtés de Schaefer. Il a également fait appel à Mark Prator, qui a été le batteur de Iced Earth au milieu des années 90, durant deux albums, me semble-t-il. Jim Morris, qui est guitariste, mais surtout propriétaire des célèbres Morrison Studios, où tous les albums d'Iced Earth ont été enregistrés, ainsi que bon nombre d'albums cultes de la scène trash et death américaine. Et puis Ruben Drake, l'homme à la quatre cordes, dans le projet Demons and Wizards, un autre projet musical qui avait été initié par Schaefer dans les années 2000. Ensemble, ils ont donc réenregistré 5 titres du répertoire de Purgatory qui avait été écrit en 85-86 mais qui était resté jusque-là ben, au stade de démo, et ils ont donc donné naissance à cette EP que la formation a souhaité d'ailleurs dédier à la mémoire de Richard Bateman, qui était le premier bassiste de Iced Earth et qui est malheureusement disparu un petit peu avant la réalisation de ce disque. Alors musicalement, les 5 titres que contient Purgatory, ils nous renvoient directement aux sonorités et à l'esprit d'un bon vieux heavy metal des années 80 à la sauce US, avec des riffs puissants, une bonne dose de mélodie. Et avec cette EP, eh bien, John Schaefer, il offre tout simplement un joli cadeau de Noël à ses fans. C'est encore une bonne idée voilà, de mettre ça au pied du sapin si vous avez des fans de Iced Earth ou carrément des fans de heavy metal dans votre entourage. Voici tout de suite un extrait de ce projet John Schaefer's Purgatory avec le titre Dracula. « Le projet John Jeffers Purgatory avec un extrait de l'album, enfin de l'EP Purgatory, puisque c'est un 5 titres, on vient d'écouter Dracula, un titre qui est à la fois un petit peu désuet, qui est très marqué années 80, mais qui a aussi un petit côté qui pourrait tout à fait être d'aujourd'hui, ça pourrait tout à fait être interprété par Ghost, ce morceau, je trouve, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Ce sera à découvrir à partir du 21 décembre, John Jeffers Purgatory, vous êtes toujours sur Back FM dans l'émission Check Me Load, et on va s'accorder une petite pause douceur, ce sera la seule de l'émission, donc profitez-en, avec le groupe Gotthard qui a sorti la semaine dernière, le 7 décembre, un live acoustique qui s'appelle Defrosted 2. Alors Gotthard, c'est un groupe suisse qui nous vient de Lugano, qui a été fondé en 92 par le chanteur Steve Lee et le guitariste Léo Leoni, qui sont vite rejoints par le guitariste Freddy Scherer, le bassiste Mark Lynn et le batteur Ena Habegger, sans oublier Chris Van Roor du groupe Crocus, un autre fleuron du hard rock suisse, qui est une sorte de mentor pour Gotthard, puisqu'il va co-écrire et produire leurs albums. Donc Gotthard, c'est du hard rock et du heavy metal mélodique, hein, tout simplement. Ils vont rencontrer après le succès en Suisse et en Allemagne dès la sortie de leur premier album, qui porte le titre éponyme, qui sort en 92. C'est un succès qui va se confirmer avec les albums Die All Hard en 94 et G en 96, qui va s'élargir aussi au Japon, qui va à partir de ce moment-là compter de nombreux fans du combo. Et à partir de l'album Open en 99, eh bien, ça va être une première grosse évolution pour Gotthard, qui va aller vers un son plus pop-rock, comme vont en témoigner Home Run en 2001 ou Human Zoo en 2003. Mais bah, Gotthard va finalement choisir de revenir à un son plus hard-rock et plus puissant avec Need to Believe en 2009, qui sera malheureusement le dernier album où apparaît le chanteur Steve Lee, qui va perdre tragiquement la vie dans un accident de moto aux États-Unis. Ça, c'est en 2010. Alors, malgré ce drame, Gotthard va décider de continuer l'aventure. Ils vont donc recruter Nick Mader pour succéder à Steve Lee. Et depuis, eh bien, le groupe a sorti 3 albums. Il y a eu Fireburst en 2012, Bang en 2014 et puis Silver en 2017, qui sont 3 belles preuves de l'intégration réussie du nouveau frontman. Mais intéressons-nous donc à l'actu des Suisses, qui ont débranché leurs instruments. Bah, le temps d'un album live. Un album live et acoustique. Alors, même si on peut entendre, il est vrai, quelques notes de guitare électrique avec Defrosted 2, qui est donc paru il y a une semaine. Et c'est pas une première pour Gotthard, puisque ce disque, il fait suite à Defrosted, qui était paru en 97, qui était déjà un live acoustique. Et donc voilà, ils sont déjà un petit peu rodés à ça. Alors pour ce qui est de Defrosted 2, on y retrouve 24 titres qui sont issus du large répertoire de Gotthard, mais il y a aussi quelques covers, il y a 2 inédits qui ont été enregistrés. Je mélange un peu tout, il y a 24 titres. Voilà, parmi ces titres, on a quelques covers, on a 2 inédits. Donc, voilà, c'est tous ces titres. Ils ont été enregistrés, sauf pour les inédits, durant le Unplug and Defrost Tour, une tournée qui s'est déroulée en mars 2018. Alors, ça donne à ce disque un côté intimiste et chaleureux. C'est un album que je trouve sincère et à travers lequel on sent à quel point le lien qui unit le groupe à ses fans est quand même solide et bien ancré. C'est un disque qui fait du bien au moral, qui est capable de réchauffer les cœurs les plus glacés, et aujourd'hui en particulier, ça fait du bien. On peut aussi noter la présence d'un invité de marque, en la présence de Francis Rossi, le leader de Status Quo. Alors c'est pas sur le live, mais c'est sur un des 2 inédits qui s'appelle Bye Bye Caroline, qui est une des 2 nouvelles compos et qui n'est autre qu'un hommage à la chanson Caroline du légendaire combo de rock londonien. Mais comme ce serait pas drôle d'écouter un titre en studio, on va se faire un petit coup de live. On va écouter donc le titre Feel What I Feel, donc en version unplug et en version live. C'est un titre que vous pouvez retrouver dans sa version originale sur l'album Bang, paru en 2014. Voici tout de suite Gotthard.
I
Le groupe suisse Gotthard qui réchauffe vos cœurs aujourd'hui avec Feel What I Feel, un extrait de Defrosted 2, leur album live et acoustique paru la semaine dernière, c'était le 7 décembre. Vous êtes toujours sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Et on va continuer à se réchauffer un peu avec un album plein de lumière, plein de soleil, le nouvel album du duo Yann Armellino et El Butcho. El Butcho, ex-chanteur de Wacha. Alors, on va déjà parler, dire deux trois mots sur Yann Armellino qui sera avec nous dans quelques minutes. Depuis ses premiers albums à la toute fin des années 90, Yann il s'est forgé une place de choix dans le milieu très sélect de la guitare instrumentale, dont les fers de lance sont Joe Satriani, Steve Vai ou encore Patrick Ronda pour la France. Il va sortir 5 albums qui vont lui valoir de très bonnes critiques des médias spécialisés et qui va lui valoir aussi beaucoup de soutien de la part du public. Il publie également 5 DVD, des DVD la série Je suis guitare qui vont se vendre à plus de 70 000 exemplaires, donc une grosse valeur sûre de notre scène française. Et en concert, eh bien, il va croiser entre autres Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, Mr Big, ou alors il va accompagner Beth Hart. Donc voilà, sacré palmarès. De son côté, El Butcho, entre 94 et 2008, il sillonne la France, l'Europe, mais aussi le Canada, avec plus de 2000 concerts au compteur au sein de son groupe Wacha, avec lequel il enregistre également 5 albums, tous acclamés par la presse et par le public métal. Souvenez-vous de leurs concerts, c'était on se prenait des claques à chaque fois. Je me souviens de leur passage à Café Charbon, ça devait être en 2001-2002, mais voilà, ça avait été une mandale monumentale. Et ils étaient passés à Nevers à Vif aussi, je me souviens. Après la séparation du combo El Butcho, il va choisir de retourner à ses amours de jeunesse et il va évoluer plutôt dans un registre hard rock désormais. Il évolue dans diverses formations d'ailleurs. Il y a par exemple Electro Cutters, il nous en avait parlé sur cette antenne il y a quelques années. Et puis il y a aussi donc ce fameux duo avec Yann Armellino qui va prendre vie fin 2014 alors que nos deux protagonistes vont se rencontrer durant un festival. En 2016, il décide de concrétiser tout ça avec l'album Better Ways, sur lequel on découvre un univers musical qui se situe dans la pure tradition du hard rock, classic rock, avec des influences qui viennent de Aerosmith, Kiss, les Guns, et j'en passe, bien évidemment Van Halen, tout en bénéficiant d'un côté absolument moderne, notamment en ce qui concerne la prod. Le disque va recevoir un accueil très chaleureux et le duo Armellino et El Butcho va prendre la route pour défendre sur scène ce premier opus. Donc voilà, il y a eu pas mal de dates, ça a bien marché. Et le 23 novembre, eh bien notre duo était de retour dans les bacs avec Seventeen. Alors là, on est avec un deuxième album qui est dans la droite lignée de son grand frère, qui est taillé pour séduire les fans de rock et de hard rock des années 80, mais aussi qui est taillé pour le live beaucoup plus que l'album précédent. Et avant de recevoir Yann Armellino pour en parler un petit peu plus en détail de ce nouvel album, eh bien je vous propose d'en écouter un extrait. Ce titre, c'est Under My Skin. C'est donc extrait de l'album Seventeen, Yann Armellino et El Butcho.
Yeah.
Yann Armelino et El Bucho dans l'émission Check Me Load avec le titre Under My Sky qui est extrait de leur nouvel album qui s'intitule 17. Et pour nous le présenter, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Yann, guitariste et compositeur. Salut!
Donc, salut à tous, bonjour Laetitia et puis bonjour à tous les auditeurs.
Eh ben, écoute Yann, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. La dernière fois, c'était El Bucho qui nous avait présenté le premier album, donc bah c'est cool, comme ça on vous aura eu tous les deux.
Comme ça, voilà.
Alors, on avait découvert le fruit de votre duo détonnant en 2016 avec un premier album qui s'intitulait Better Way. Et donc, le 23 novembre, vous avez sorti votre nouvel opus 17. Avant de s'y intéresser un petit peu plus en détail, est-ce que tu peux nous raconter comment il est né ce projet Armelino et El Bucho?
C'est assez simple. On s'est retrouvés c'était fin 2014, je crois, lors d'un festival à Paris. Et on était tous les deux invités, on jouait pas, hein, mais on était invités sur le set de Christophe Godin, guitariste.
Fameux guitariste, ouais.
Et il se trouve que, donc, on a fait une courte apparition sur scène, on a joué un titre chacun. Et on a passé beaucoup plus de temps dans les loges que sur scène. Et puis, ça faisait longtemps hein, qu'on se connaissait, qu'on se croisait. Mais
ouais, j'imagine.
Voilà, on a papoté, on a échangé, puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, de goûts musicaux en commun. Moi, je savais pas trop où j'allais musicalement. Lui avait des choses aussi, mais était quand même avait du temps encore pour faire d'autres choses. Donc, je lui ai proposé qu'on essaye d'écrire un, deux titres ensemble et puis de voir ce qui pouvait en découler. Il a bien entendu dit oui. Et puis bon, voilà. Souvent, les musiciens ils disent ouais, c'est très sympa. Et puis ils donnent pas suite. Moi, j'ai rappelé quelques mois après. J'ai dit, écoute, voilà, on s'était dit ça, bah, c'est peut-être le moment est venu d'essayer, mais bah ouais, bingo, c'est bon, on voit des trucs, et puis on verra, et puis voilà, tout est parti de là, en fait.
D'accord, et ça s'est concrétisé donc par ce premier album, oui. Better Way. Alors, d'ailleurs, on parle de duo, mais dans les faits, que ce soit sur scène ou en studio, vous êtes entouré d'une solide équipe de musiciens, dont Alban, ton frère à la batterie, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis des musiciens de Jesus Volt aussi?
Aussi, oui, le guitariste et le bassiste de Jesus Volt avec nous.
D'accord.
On est 5 sur scène.
Ok. Alors, on avait déjà pu le découvrir sur le premier album. L'univers musical de Yann Armelino et El Bucho, il est à la croisée du classic rock, du hard rock, du blues rock. Et cet univers, bien sûr, on le retrouve dans 17, qui est une véritable madeleine pour tous ceux qui ont un jour aimé la scène rock, hard rock des années 80. En écoutant le disque, forcément, on pense à plein de choses. On pense à Van Halen, Whitesnake, Satriani, ZZ Top, AC/DC, même Living Color, j'ai trouvé sur un des morceaux. Et j'ai l'impression que ces groupes qui ont forgé ce son hard rock des années 80, ils connaissent actuellement un engouement assez fort, et notamment auprès des jeunes. Comment tu l'expliques ce phénomène pour cet amour?
L'expliquer, ça serait difficile, mais je pense que la roue tourne en fait.
Ouais.
Des fois, puis je pense que les gens ont besoin de revenir à des fondamentaux. Donc c'est vrai que Van Halen, c'était indémodable il y a quelques années, même si c'était tombé un peu dans le creux de la vague, et puis les gens redécouvrent au fur et à mesure. Whitesnake, c'est pareil, Kiss, c'est pareil, Def Leppard aussi, qui continue à quand même tourner, à vendre.
Ouais.
Des groupes qui font partie presque de l'inconscient collectif des gens qui ont écouté cette musique à un moment donné, et qui ont un certain âge, et qui regardent un peu dans le rétro, et qui se disent, c'était quand même vraiment pas mal, et puis ils se raccrochent encore à ça, il y a une question de transmission aussi.
Ouais, parce que la nouvelle génération, il est très sensible.
La génération découvre ça, et c'est bien, heureusement.
Et toi,
on a eu quand même un gros, gros creux pendant toute la période.
Les années 90
Oui, avec le grunge qui est arrivé. C'était pas facile pour les gens qui écoutaient du classique rock. Et, en tout cas, médiatiquement, c'était... comme je te disais, la roue tourne, donc... C'est pas plus mal. Hein.
Et toi, c'est qui les guitaristes et les groupes qui t'ont donné envie de devenir musicien?
Kiss.
Sans
hésiter, c'est vraiment le premier groupe qui m'a donné envie de m'y mettre, avec Astralet, bien sûr. Après, il y a eu Aerosmith. Il y a eu des choses plus hard rock, comme j'ai eu ma période où j'écoutais, bien sûr, Iron Maiden, Saxon, Pretty Maids. Après, j'ai découvert toute la scène un peu, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu... vulgairement, je trouve les air metal, là, parce que je trouve que c'est quand même des gens qui savaient très bien jouer, que ce soit des Rats, Motley Crue, Cinderella, enfin, ces gens-là, j'ai beaucoup écouté. Et Van Halen, bien sûr, toute cette scène, Et puis après, effectivement, des gens qui faisaient plus de l'instrumental, comme Joe Satriani, bien sûr, qui est pour moi un des maîtres de l'instru. Il y a eu aussi un type que j'adorais et que j'aime toujours beaucoup, c'est Blues Saraceno.
D'accord.
Il est un peu moins connu, mais qui est pareil, qui a fait beaucoup d'instru, mais qui chante vraiment avec sa guitare. Toute la scène danoise aussi, enfin toute la scène nordique plutôt. J'ai beaucoup écouté des groupes comme Stage Dolls, comme DAD, qui m'ont bien plu. Je me souviens d'un groupe aussi, c'était King of the Sun. Je sais pas d'où ils viennent, mais je crois pas qu'ils soient américains. Hanoi Rocks aussi, finlandais.
Ah oui.
J'aime beaucoup. Et Michael Monroe, bien sûr, un chanteur qui a fait sa carrière solo qu'on connaît. Un mec aussi qui était super talentueux, je trouve, qui s'est un peu perdu en route, mais c'est Adam Bomb.
Ouais.
Qui était un vrai, enfin un ovni, hein. ACDC aussi, enfin, et puis à côté de ça, beaucoup de choses pop, beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il y a des musiques sur lesquelles je me sens moins attiré, comme le jazz, rock, fusion, tout ça, qui fait un peu. Je suis quand même attiré par des choses où il y a un peu de. Le blues n'est jamais très loin finalement.
Il faut toujours qu'il y ait du feeling, quoi.
Voilà.
Alors, ce qui ressort du duo que tu formes avec El Bucho, et c'est d'ailleurs de façon certainement encore plus marquée sur ce nouvel album, c'est cette complicité, presque l'harmonie qui existe entre vous deux, comme si vous étiez destinés à vous rencontrer et à faire de la musique ensemble finalement. Comment ça se passe quand vous composez? Vous êtes complémentaires? Vous savez direct où est-ce que l'autre veut aller?
On est complémentaires, ça c'est vrai. Après, on ne sait jamais où on va.
D'accord.
C'est au fur et à mesure des idées qui viennent. On peut des fois dévier un peu, revenir, c'est toujours le processus de création, de composition est toujours un peu, on navigue un peu à vue à chaque fois, mais c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est vrai que je trouve que oui, on est assez complémentaires, et puis ça se, oui, il y a une espèce d'alchimie qui se passe bien entre nous, les idées arrivent assez vite, et puis, on se marre bien, c'est collégial, c'est pas, enfin, on n'a pas de problème d'ego, on n'essaye pas, et lui et moi, de tirer la couverture, sur l'un ou l'autre, on n'en est plus là depuis longtemps.
Ouais.
Ça, je pense que ça joue aussi. Je pense que tout ça fait que, à l'arrivée, je pense que tous ces petits détails-là, mais qui font quand même que ce qu'est notre musique aujourd'hui, ça s'entend.
Ah oui, mais ça s'entend totalement qu'il y a cette bonne humeur au sein du groupe. Hein. Ça transparaît vraiment dans l'album. Il y a cette espèce d'énergie positive qui transparaît. Et pour moi, Seventeen, je trouve que c'est vraiment un album lumineux et taillé pour la scène, quoi.
Merci, c'est gentil. Et puis c'est vrai que c'est un album qui est même plus taillé pour la scène que le précédent, parce qu'on l'a composé un petit peu. Après, c'est sûr qu'au bout de 2 ans, on se connaît mieux.
Ouais.
Il y a une complicité et avec les musiciens et entre nous, et je pense que tout ça effectivement se retrouve dans les nouvelles compositions et dans les nouveaux titres.
Alors, je sais que Bucho, il aime bien raconter des histoires, incarner des personnages dans les textes de ses chansons. Est-ce que c'est le cas dans Seventeen? C'est quoi les thèmes des morceaux?
Bon, ça faudrait lui demander, mais c'est toujours très personnel en fait. C'est vraiment sur ses états d'âme, sur les gens qu'il peut rencontrer, sur... Je trouve qu'il écrit plutôt bien d'ailleurs.
Ah oui, il écrit bien.
On n'est pas dans la caricature rock'n'roll, donc c'est plutôt bien. Je trouve que ça m'évoque toujours, hein, même si j'aime beaucoup ce qu'il faisait au sein de Van Halen et ailleurs. Je pense toujours à Sammy Hagar.
Ouais.
Je trouve que Sammy Hagar, ses textes sont pas à la hauteur du talent musical qu'il a. En tout cas, quand on commence à rentrer un peu plus dedans, quoi. Alors que je trouve que justement, c'est pas de la haute lise, je dis pas que Butcho est c'est pas de la littérature. Mais je trouve qu'à chaque fois, ça raconte une histoire, des états d'âme, et puis c'est plutôt bien ficelé. Arrive à bien trouver aussi les bonnes rimes, donc il fait sonner un peu, enfin, il écrit un peu comme peut écrire un musicien.
Ouais, c'était déjà le cas dans le groupe Watcha, hein, où il avait déjà
une très
belle plume. Et il écrit aussi bien en français qu'en anglais, ça c'est assez magique aussi.
Oui, c'est vrai, même si là en français, il l'a pas fait avec nous, mais j'avais lu... qui avait le bout des Watcha, effectivement, c'était très, très, très chouette. Des petits bouts de vie comme ça.
Des petites histoires.
Oui.
Tout à l'heure, on parlait des influences qui sont plutôt vintage, mais en ce qui concerne le son et la production, là, on est sur du résolument moderne. Cette production, elle est de nouveau signée de Eric Benzi, qui a travaillé avec les plus grands, qui a un très très beau parcours.
Oui.
C'était évident pour vous de renouveler cette collaboration avec Eric?
Ah oui. Oui, vraiment, ouais. Je vois pas qui... Enfin voilà, je vois pas qui d'autre sur ce deuxième album. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Paperway. Et puis c'est une chance de pouvoir travailler avec lui, qu'il nous fasse confiance, qu'il apprécie notre musique, qu'il a envie de travailler dessus. Et puis c'est vraiment le son et l'alchimie de la production, c'est lui. Parce que moi, on n'y a absolument pas participé.
Ouais.
Hein. On a fait les prises. Après, c'est Eric qui, dans son studio, fait le travail, met en place les guitares, l'équilibre de chaque instrument, des voix. Et il nous envoie déjà les titres quand ils sont déjà pas loin d'être finis, quoi.
D'accord.
Donc nous, en plus, ce qui est très agréable, c'est qu'on n'a pas ce côté lassitude qu'on peut avoir quand on participe au mixage d'un album.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne va pas rester pendant 10 heures par jour en studio en écoutant pendant 2 jours le même titre, à chercher le bon son de caisse claire, le bon son de guitare. À un moment donné, quand tu procèdes comme ça, mais ton album te sort par les oreilles, quoi. T'en peux plus,
T'es blasé, quoi.
Là, pas du tout. Ah oui, quand il nous envoie les titres, moi je redécouvre les titres. Et avec une oreille vierge, parce qu'il y a un certain laps de temps entre l'envoi des prises et lui l'envoi des mix. Donc c'est vraiment, t'as vraiment l'impression de découvrir ton travail sous un angle qui est quasi def. Non, c'est super agréable.
T'es presque à la place finalement de l'auditeur qui va découvrir le disque.
Complètement. Oui, vraiment.
Alors cet album, il se termine par un instru. C'est important pour toi de garder, de conserver un petit peu d'espace pour exprimer, on va dire, tes talents guitaristiques de façon un peu plus technique.
Oui, je trouvais que c'était bien de toute façon d'en faire un ou deux. Voilà, les gens m'ont découvert et puis m'ont suivi aussi en premier avec mes albums instrumentaux.
Ouais.
Et puis c'est vrai que je trouve que c'est toujours bien de garder un petit pied là-dedans. Et puis c'est aussi parce que j'ai eu l'inspiration pour faire ce titre. Après, il y a des fois où tu as envie de composer un titre instrumental et où tu n'as pas du tout l'inspiration. Donc quand ça vient pas, ça vient pas. Mais là, il se trouve que... En plus, c'est plus facile d'avoir l'inspiration quand tu sais que tu veux en mettre un ou deux.
Ouais.
C'est pas du tout la même approche que de dire je me mets en processus de composer un nouvel album instrumental. Là, c'est pas facile du tout parce qu'il faut pas se fatiguer, il faut essayer de trouver des thèmes accrocheurs. C'est un vrai boulot assez laborieux. Là, c'est pas la même chose parce que tu peux tout ce que tu as à dire, tu peux le mettre dans un titre.
Sur un album instru, des fois le problème c'est que les gens qui sont pas forcément guitaristes trouvent la musique pas toujours très facile d'approche, alors que là sur un titre ou deux, c'est bien, quoi.
Oui, ça peut faire une respiration dans l'album, là c'est pas le cas parce que c'est lui qui termine l'album. mais c'est vrai que oui, ça change un peu d'univers et puis c'est pas mal, mais il y a d'autres groupes comme ça qui utilisaient quelques instruments, il me semble.
Je
pensais notamment aux albums d'Astralay, ils mettent toujours un instrumental dedans.
Et puis
alors tout le reste, ils le chantent.
Des gros groupes comme Metallica l'ont fait aussi, par exemple.
Oui, c'est vrai, tout à fait, avec The Call of Cthulhu, c'est un titre magnifique.
Alors cet album, donc 17, il est dans les bacs depuis fin novembre. Vous avez déjà commencé un petit peu à le défendre sur scène, il me semble. C'est quoi la suite des événements pour 2019? Est-ce que vous avez des dates de Calais, des festivals en vue pour cet été?
Écoute, à l'heure où je te parle, non, pas encore.
Ouais.
Mais on y travaille plus que sérieusement. Enfin, pas nous, Sylvie Gotland qui s'occupe de nous chercher et bouquer des dates. Elle a des options quand même sur pas mal de salles et pas mal de villes. J'espère que ça va se concrétiser. On a aussi, on voudrait refaire une tournée de showcase acoustique pour faire découvrir un petit peu aux gens notre musique d'une autre façon.
Ça avait pas mal marché, ça pour le premier album, je crois.
Oui, tout à fait. Oui, ça nous a permis de vendre déjà du disque et puis d'aller à la rencontre d'un public qui n'était pas forcément conquis d'avance, hein, loin de là. Et donc c'est plutôt intéressant. C'est un exercice un peu ingrat, mais en même temps c'est formateur et puis c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien aller à la rencontre des gens.
Se frotter un peu au public.
C'est enrichissant.
Avant de terminer cette interview, est-ce que, Butcho ou toi, vous avez d'autres projets en cours ou est-ce que vous êtes pour l'instant trop occupé par celui-ci?
Ben non, je sais que Butcho, il continue Electrocuteurs.
Ouais.
Il a aussi son groupe Showtime. Il a un autre projet, je crois, sous le pied. Et puis, moi, je commence à écrire de nouvelles choses avec Chris Caron.
D'accord.
Avec qui j'avais fait un album qui s'appelait Gimme the Sound. Et un chanteur qui est basé à Boston. Et on a fait un album ensemble et on commençait là, cette année, à composer pour la suite. Et oui, j'ai bien envie de refaire quelque chose avec lui également parce que c'est une belle histoire et l'un n'empêche pas l'autre. Donc de toute façon, moi, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est absolument pas exclusif ce qu'on fait, loin de là. Et plus on fait de choses à côté, et de toute façon, on peut pas se brider, on est loin des, comme je te disais au départ, on n'a pas de problème d'ego et,
ouais.
Et donc c'est bien, je trouve, finalement, tout peut être bénéfique. Ce que
Butcho
fait avec Electrocuteur, ça peut rayonner aussi un petit peu sur nous. Et moi, si je fais d'autres choses, c'est pareil. Donc, c'est bien.
C'est enrichissant, quoi.
Oui, vraiment.
Eh ben, je te remercie Yann de nous avoir présenté donc cet album 17. Ben,
merci à toi et puis à tout le monde.
Et puis ben, on va en écouter un nouvel extrait. Hein. J'ai choisi le titre Drowning My Fear. Est-ce que ça te va?
Ouais, ça me va très bien.
Et ben c'est super. Merci encore Yann. Bon courage donc pour cette journée de promo. Et puis à très bientôt sur la route alors.
Ouais, sans faute. Merci Yann.
Salut.
Ciao.
Sure.
Drowning in My Fears du duo Yann Armellino El Bucho, extrait du nouvel album 17 paru le 23 novembre. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien c'est tant pis pour vous, vous venez de rater l'interview de Yann Armellino. Ce sera bien sûr rattrapable grâce au podcast qui va arriver d'ici quelques jours. Normalement, si tout va bien, il sera là lundi. Ben moi, de réécouter El Bucho au sein de ce duo, moi ça m'a donné envie de me replonger dans la discographie de Watcha. J'ai eu envie de retrouver un peu ce son que j'ai fort apprécié il y a une quinzaine d'années, revivre un peu cette ambiance de concert de folie. Et du coup, j'ai eu envie de partager avec vous pour la rubrique Sortez Cover, et bien cette reprise du tube Disco and the Beat Goes On, revisité à la sauce new metal par Watcha en 2003 sur son album 8 ans, sur son album Mutant, son troisième album studio. Alors, je vais déjà vous dire quelques mots sur la chanson And the Beat Goes On. Donc, à l'origine, elle interprété par The Whispers, c'est un groupe de soul disco funk fondé en 64 à Los Angeles qui va connaître ses plus gros succès à la fin des années 70 et dans les années 80. Ses deux plus gros hits, c'est Rocksteady qui est paru en 87 et puis donc ce fameux And the Beat Goes On qui est un peu plus ancien, qui est arrivé en single le 1er février 80, qui est extrait de l'album éponyme de The Whispers, qui lui avait fait son apparition dans les bacs fin octobre 79. Alors si la plupart des profanes dont je fais partie concernant ce courant musical qui est disco, funk, soul, etc., vous diront que And the Beat Goes On, c'est une chanson disco, les experts les corrigeront et qualifieront eux le morceau de post-disco. Alors le post-disco, je me garderai bien de vous expliquer ce que c'est et quelle est la différence avec le disco. Si vous êtes curieux, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'aller voir sur Wikipédia. En tous les cas, And the Beat Goes On, ça a été un énorme succès commercial. En France, par exemple, il s'est hissé jusqu'à la 12e place du hit parade. On n'avait pas encore le top 50 à l'époque. Et donc ensuite, quelques artistes ont samplé ce titre. Alors c'est par exemple le cas de Will Smith pour la chanson Miami, de Madonna, de DJ Abdel. Par contre, et ça c'est assez bizarre, la chanson elle a été très très peu reprise. Donc bravo à Watcha d'avoir eu l'idée de la revisiter et de nous la faire découvrir donc au début du 21e siècle en 2003. Avant de lancer le titre, je rappelle que la semaine prochaine pour le dernier numéro de Check Me Load de cette année 2018, ce sera la traditionnelle petite playlist métal de Noël. Il y aura des morceaux originaux, des chansons traditionnelles revisitées, des nouveautés, des titres plus anciens. Donc préparez vos bonnets de Père Noël, ce sera vendredi prochain. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir. On se quitte donc avec And the Beat Goes On, The Whispers, revu et corrigé par Watcha. Salut à tous, très bon week-end sur Mac FM.